C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je reviens sur cette épouvantable histoire de quatre femmes qui ont été agressées en pleine rue à Verdun alors qu'elles venaient de sortir pour s'amuser par un inconnu. Et quand vous remontez l'histoire, comme l'a fait Bénédicte, on découvre que c'est quelqu'un qui a visiblement des enjeux de santé mentale. Et un jour, il va falloir qu'on regarde le problème de face et pas toujours tourner la tête pour pas avoir à se prononcer parce que politiquement correct, c'est pas nécessairement de mise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en société. Il y a des gens qui n'ont pas à être dans la rue. Pour reprendre l'expression de mon collègue Lagacé, Montréal ne peut pas être un hôpital psychiatrique à ciel ouvert où les gens circulent librement sans qu'il y ait vraiment de contraintes, si ce n'est que des engagements à respecter des conditions de remise en liberté. La coroner Kamel enquête sur le décès de la policière Maureen Brault. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que l'information ne circule pas, que les policiers qui interviennent n'ont pas les outils pour faire une intervention correcte dans les circonstances. Ils sont dans l'inconnu, dans bien des cas. Et est-ce que la mort de Maureen Brault était évitable? Certains, on pense que oui. Et on se demande qu'est-ce qu'on attend pour arrêter de toujours, au nom de la confidentialité, protéger des individus qui représentent une menace. Et je pense que c'est important de le souligner. Puis, je ne veux pas virer fou avec la violence dans les rues, là, mais quatre femmes agressées à Verdun, le père d'Alexandre Champagne qui se fait battre dans le métro, les cas d'agression contre des chauffeurs d'autobus, puis des opérateurs de métro puis des constables spéciaux, puis pas de la violence verbale, là, de la violence physique, c'est en augmentation. Vous vous promenez dans les rues de Montréal, puis vous voyez des gens qui ne vont pas bien, qui sont soit en psychose ou en détresse, mais tu changes de trottoir. Et je le sais qu'on va m'inonder de chiffres en disant « Oui, mais Montréal, c'est encore une ville très sécuritaire. » C'est pas ça le point, c'est le sentiment. C'est un sentiment de sécurité qui s'effiloche. Et il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un moyen, mais il y a au moins, au départ, la volonté de regarder le problème en face, ce que on ne fait pas actuellement. Donc, voilà pour ce dossier-là. Maintenant, il y a une nouvelle extraordinaire qui est cette victoire, demi-victoire, je dirais, de ces personnes âgées, de ces retraités de la résidence Mont-Carmel. Cette résidence a été achetée par un promoteur qui s'appelle Henry Zavriev et qui se spécialise par des évictions massives de locataires pour changer la vocation de l'immeuble. Et étonnamment, il a envoyé une lettre aux quelques locataires qui restent, ils sont une cinquantaine, dans un immeuble où il y avait déjà 200 et plus logements là, occupés, ce qui est vraiment, il y a eu une vague de départ, en disant, ben finalement, j'ai décidé de garder la vocation de la résidence. On avait tout coupé, là, fermé les espaces communs, on avait enlevé le service de concierge. Bref, c'était une stratégie d'écœurement pour que ces gens-là quittent, des gens qui ont vécu là pendant des années puis qui n'ont pas envie comme ça de changer de place. Et là, non, je ramène l'infirmière, je ramène les services. Tu dis pourquoi? C'est pas clair. Puis est-ce qu'on peut s'y fier? Je le sais pas. Fait que d'un côté, c'est résidents et résidentes qui sont contents, mais qui sont aussi, je dirais, assez inquiets, nerveux. Quelle sera la suite des choses? Comment il va se comporter? Parce que, historiquement, il a un profil de quelqu'un qui achète et qui change la vocation puis qui fait des expulsions massives de locataires. On va parler avec une des résidentes de cette ressource. Mais quand même, c'est impressionnant de voir des gens âgés, là, dans la cave, ils ont quoi, 80 et plus, de se battre comme ça. Sondage ce matin, la CAQ qui plonge vers le bas et le Parti québécois qui s'installe à la première position en augmentation. Depuis 2018, c'est le pire sondage de la CAQ. En résumé, tout ce que la CAQ fait ou ne fait pas déplaît aux Québécois. On a l'impression qu'ils nous annonceraient la plus belle des nouvelles puis qu'on trouverait le moyen de chialer. dans le sens où, selon les intentions de vote, la CAQ est à 22 %. Je veux se rappeler qu'il était au-dessus de 40 % à l'élection. Le Parti québécois est en hausse de 2, il est à 34 %. Québec solidaire monte un peu à 18. Libéraux, c'est du surplace, là, 14 %, légère baisse. Éric Duhaime aussi est à 10 %. Comment expliquer le portrait des intentions de vote des Québécois? D'abord, c'est clair que depuis l'automne, le gouvernement caquiste a accumulé les erreurs, des stratégies boiteuses, des déclarations qui ne tiennent pas la route. Prenez le budget. Mais ça, le budget, moi, je ferai attention parce que quand vous regardez avec le déficit là, de 11 milliards, 58 % disent que c'est un mauvais budget. Puis il y a même au-delà de 40 % de ceux qui se disent partisans de la CAQ là, qui trouvent que c'est pas un bon budget. Mais en même temps, tu dis, OK, c'est quoi un bon budget? Puis là, ça se divise. Des gens qui veulent une lutte au déficit, d'autres qui veulent qu'il y ait plus d'argent dans les programmes sociaux. M. Legault a promis de pas toucher aux impôts. C'est un budget qui suscite de la grogne chez le peuple. Mais en même temps, tu regardes les experts qui disent que Éric Girard a fait ce qu'il aurait dû faire. Autrement dit, il a fait le travail, puis ça se défend sur le plan peut-être comptable, sur le plan économique. Mais la perception des gens, c'est que c'est un déficit trop élevé. Puis en même temps, on veut des services, puis on veut avoir accès, par exemple, aux hôpitaux puis au système de santé. Et la souveraineté, quand vous regardez les intentions, ben, c'est encore le non qui l'emporterait, en gros 53 %, 36 pour le oui, puis un certain pourcentage de gens qui sont indécis. Et ça force à conclure que la seule arme qui reste à la CAQ pour foncer vers le Parti québécois, c'est de faire ce que les libéraux ont toujours fait, de brandir le spectre d'un référendum en cas de victoire du Parti québécois. Ça a toujours été ça, et ça a commencé un peu dans le discours de la CAQ à en faire partie. Donc, quand même intéressant ce volet-là. Et puisqu'on parle de sondage, la chapelle ardente pour l'ancien premier ministre se déroule à Ottawa. On a vu le public, des gens qui partaient d'aussi loin que de Baie-Comeau pour venir rendre hommage à M. Mulroney, partager des sentiments avec la famille, des souvenirs également. Et chapelle ardente qui se poursuit, ce sera jeudi et vendredi à Montréal et des funérailles samedi matin. Je parle de sondage, pourquoi? Parce que quand Brian Mulroney a quitté le pouvoir, il était dans les bas-fonds des sondages. En fait, sa cote de popularité tournait autour de 12 % en 1992. C'était du jamais vu pour un premier ministre. Et la preuve, c'est que lors de l'élection, avec Kim Campbell, le parti a quasiment été balayé. Un sondage aujourd'hui montre que plus de 80 % des Canadiens pensent qu'il a été un grand premier ministre, que ses politiques ont façonné le Canada et également ont eu une influence sur la planète. 83 % des gens qui disent qu'il a fait un bon travail. Et pour des élus qui sont dans la tourmente quand tu es au pouvoir, tu as toujours cette idée en disant « je prends des décisions impopulaires, mais qui un jour vont donner des résultats et les gens comprendront pourquoi on le fait ». Et c'est un peu l'impression que donne ce sondage, disons, qui montre l'appréciation des Canadiens pour le travail de M. Mulroney. Parlons maintenant du stade olympique et du mystère qui entoure les chiffres et les dépenses au stade. Bon. On sait que Québec va injecter presque 875 millions pour équiper le stade d'un nouveau toit, puis il faut refaire tous les travaux de l'anneau technique. La presse nous dit ce matin qu'on avait évalué en 2012, ça fait longtemps, là, mais quand même, qu'un stade qui n'aurait pas de toit comme tel et pour lequel on devrait prendre des mesures pour l'hiver, autrement dit un stade à découvert, mais le protéger contre le froid et les intempéries, ça coûterait 10 fois moins cher que d'installer un toit. Et il semble que ces montants-là apparaissent pour la première fois. Et là, tu dis, est-ce qu'on a fait vraiment tous les calculs? Est-ce que c'était nécessaire de couvrir le toit avec une structure rigide de façon permanente? Ou si on aurait pu garder un stade à découvert? Est-ce que ça aurait accéléré sa détérioration? Je suis pas un expert. Mais disons que la transparence des chiffres, que ce soit sur les coûts de démolition, sur les autres options qui étaient sur la table, là, on parle de 2012. Probablement que, et très certainement, les prix seraient différents aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y avait des solutions plus économiques pour le Stade olympique? Je persiste à dire, on n'est pas très nombreux à penser ça, mais que le stade demeure quand même un atout pour la ville de Montréal. Il y a du travail considérable de fait depuis des années pour rendre pas juste le stade, mais le parc olympique beaucoup plus attrayant, beaucoup plus vivant. Mais est-ce que ça vaut autant d'argent? C'est sûr que la question, elle, se pose. C'est dans la presse que vous retrouvez ça ce matin. Réseau de la santé. Bon, il y a une entente entre Québec et Ottawa. Grosso modo, c'est 900 millions, pas de conditions. Ça vient renflouer les coffres. C'est pas ce que Québec attendait. Mais comme on dit, c'est mieux que rien. Et ce matin, la presse aussi est allée vérifier les indicateurs. Là, on est dans la période des tableaux de bord. Je vous parlerai de celui de l'éducation dans deux instants. Et évalue où ça performe. Grosso modo, là, il y a des progrès pour ce qui est du temps supplémentaire obligatoire. Il y en a un peu moins. C'est déjà pas si pire. On a encore pas mal de misère à recruter du personnel, des infirmières. En resserrant avec, disons, les contrats d'agence, ça va peut-être pousser des gens vers le secteur public. Il y a un doute là-dessus. Mais quand même, il y a des informations qui montrent un certain progrès, comme le fameux temps supplémentaire obligatoire. Les agences, c'est un peu moins. Là où ça se gâte, c'est évidemment l'accès aux médecins. Puis vous avez beau me dire là, que officiellement, il y a tant de patients qui ont été pris en charge par un médecin grâce au guichet. C'est pas parce qu'un patient est inscrit à la liste d'un médecin qu'il a nécessairement accès à ce médecin. Je peux inscrire le patient, puis après ça, le patient devra se débrouiller pour obtenir un rendez-vous, et c'est pas aussi vite et aussi simple que ça. L'accès à un médecin de famille demeure problématique. Puis on a des exemples tous les jours de ça, si ce n'est que pour le renouvellement d'ordonnances de patients qui sont orphelins. Puis là, on l'a vu cette semaine, la paperasse qui est réclamée par les compagnies d'assurance, qui gruge du temps de médecin, c'est un enjeu. Et l'autre, les chirurgies. La solution, et je sais qu'encore là, c'est pas politiquement correct, puis ça déplaît à beaucoup de gens, là, mais la solution temporaire au moins, c'est de faire en sorte que les corridors entre les cliniques privées et les centres de chirurgie, les hôpitaux, soient utilisés au maximum, ce qui n'est pas le cas. Il y a des patients qui attendent, il y a des médecins qui veulent opérer, il y a des cliniques qui ont les équipements et le personnel. Ça coûte rien aux patients, mais ça bloque dans la machine. Et ça, là, c'est une réalité. Alors, moi, je veux que tout se passe dans le réseau public, mais je reviens comme un mantra, là. Opérez-moi à l'hôpital ou dans une clinique, m'en sac, si vous payez. Ça me dérange pas d'aller à Rockland MD ou à n'importe quel autre, si c'est payé par l'État. Mais je le sais, sur le plan philosophique et dans la philosophie aussi de plusieurs hauts fonctionnaires, c'est un crime de penser ça. Alors, le ministre nous dit des choses, sa machine pense le contraire. Ça fait que ça avance pas nécessairement très vite. Et en parlant des tableaux de bord, je regardais ce matin, en France, il y a un tableau de bord en éducation. Encore là, c'est un sujet, je sais, les profs haïssent ça, puis je voyais les réactions en disant, ça va mettre une pression pour que les notes soient élevées. Rappelons-nous l'époque où on changeait les résultats scolaires parce que les parents mettaient de la pression, puis qu'il y a des profs qui découvraient que la note inscrite à un élève était modifiée par l'école. On nous a dit, c'est fini. Jean-François Roberge, à l'époque, il disait, ça n'arrivera plus. Ben, savez-vous quoi? Je regarde le tableau en France, puis les intentions de Québec, c'est pas juste de calculer les notes, c'est de calculer, par exemple, je donne un cas, puis je suis pas un spécialiste des tableaux, là, mais je trouvais l'exemple intéressant. Et deux exemples. Le premier, comme je disais, pas que les notes. Est-ce que l'élève a terminé son parcours? Ça fait partie des indicateurs. Ça montre que l'école a été capable de le garder puis de le former jusqu'à la fin. Autre indicateur, si dans un milieu, par exemple, défavorisé, ou encore avec des classes où il y a beaucoup, comme on dit, de plans d'intervention, on met un objectif réaliste. Est-ce que l'école a atteint son objectif? est-ce que l'école progresse? Et pour voir les écoles qui progressent, quels sont les moyens qui ont été utilisés? Je ne sais pas de quoi les profs ont peur. Je ne dis pas que ça règle tout. Mais les parents ont le droit. Puis il y en a un palmarès qui existe. Et tout le monde le consulte. Tout le monde consulte. Pour voir telle école est là. Progresser de quelle façon? Eh bien oui, les écoles privées de haut calibre qui font une sélection des étudiants vont continuer à occuper le premier rang, là, Brébeuf, Assumpta, puis bon. Mais il y a des écoles, puis je regardais le tableau français, où on monte des progrès assez exceptionnels dans des milieux difficiles. Ça, c'est dans le journal Le Monde que vous avez ces informations. Rapidement, pour conclure, décès de Raymond Boulanger, le pilote des cartels de la drogue, le pilote de Casey. C'était un méchant cow-boy aérien et c'est quelqu'un qui transportait de la drogue, il a été arrêté. Et il a eu une carrière de criminel, il a passé quoi, une vingtaine d'années en prison et il est cédé d'un cancer. Je sais que Patrick Huard travaillait sur un projet de série, je ne sais pas si ça s'est continué, mais c'était de raconter sa vie, et qui est une vie de pilote de brousse et qui a développé des liens donc avec le crime organisé. La police de l'Ontario a débarqué à Montréal pour retrouver des véhicules volés. Montréal, c'est devenu, avec le port principalement, une des plaques tournantes. Alors, la police va faire le point vendredi. C'est à ce moment-là qu'on va en savoir un peu plus. Et également, de dossier de l'usine de crevettes de Matane. C'est une fermeture, manque de travailleurs. Les permis sont pas rentrés, des quotas qui font pas l'affaire. C'est quand même un dur coup. Et on apprend que la pêche au crabe qui commence là va se dérouler encore là avec un manque de personnel. Est-ce que c'est la faute du fédéral? C'est le temps perdu avec les procédures d'immigration? Possible. Mais c'est sûr que c'est quand même un dur coup là pour l'économie de la Gaspésie, de Matane en particulier.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Depuis quoi? 2 ans, les résidents de cette RPA, le Mont-Carmel, se battent pour éviter d'être évincés de leur logement. Ce sont des personnes retraitées, donc, qui se sont regroupées au sein d'un comité. Et puis hier est arrivée cette nouvelle un peu assommante. Le propriétaire des lieux, qui s'appelle Henry Zavriev, qui est reconnu comme étant un propriétaire d'immeubles qui se spécialise dans des évacuations forcées, des évictions forcées, a décidé finalement de renoncer à son projet et de ramener les services auxquels étaient habitués les résidents du Mont-Carmel, c'est-à-dire la présence d'infirmières, concierges, retour vers les espaces communs. Alors, c'est perçu comme une victoire, mais en même temps, est-ce que ça cache quelque chose? J'en parle ce matin avec Marie-Paul Lebel, qui est résidente de cette RPA Mont-Carmel, qui fait partie du comité des résidents. Madame Lebel, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous d'abord comment vous avez appris là, le changement de philosophie du propriétaire.
Eh bien, c'est par l'entremise de nos avocats, parce que il devait y avoir une conférence de gestion le 15 pour préparer les audiences, donc le procès au TAL, qui devait avoir lieu au mois de mai et au mois de juillet. Donc, les avocats de la partie adverse ont communiqué avec nos avocats pour leur dire que là, le propriétaire renonce finalement à ses avis d'éviction et que le procès comme tel n'aura pas lieu. Il se retire de ses avis d'éviction. Et ensuite, il nous a envoyé une belle lettre aux résidents pour dire que là, eh bien, on garde notre prérogative d'être dans une RPA, mais uniquement pour les 47 qui sont encore au TAL actuellement.
Au départ, il y avait combien de résidents dans cette RPA?
Il y a 216 appartements dans la résidence. Au moment où l'achat a été fait, bon, il y avait le contexte de la COVID et tout ça, il y avait à peu près 190 résidents dans la résidence. Donc, à partir du moment où on a eu l'avis d'éviction, le fin janvier 2022, il y en a qui ont saisi l'occasion de déménager, profiter des avantages, par exemple, que le propriétaire est obligé de donner 3 mois de loyer, payer les déménagements, etc. Donc, il y en a qui n'ont pas eu le courage ou la possibilité ou, enfin, c'est sûr que faire face à la justice, ça donne des craintes. Il y en a qui avaient eu des expériences antérieures très, très malheureuses. Donc, il y en a qui ont choisi de déménager, de partir. Ensuite, mais nous étions quand même 70 au TAL à ce moment-là, au tribunal administratif du logement. Ensuite, eh bien, il y en a qui sont décédés, il y en a qui ont été malades, et comme les services étaient coupés, eh bien, il y en a qui ont dû aussi déménager par manque de services.
On a tendance à être méfiant. De voir un propriétaire qui a un historique d'éviction forcée et qui joue dur, de le voir changer d'idée, de dire, ben là, vous allez retrouver la RPA que vous avez connue. Êtes-vous méfiant de vous aussi? Est-ce que vous vous dites, ça cache quoi?
Eh ben justement, je crois que vous mettez le doigt sur une question essentielle. Comment se fait-il que tout à coup, il ne veut plus aller devant les tribunaux pour défendre ses droits? Nous, cette déclaration de vouloir nous abandonner sa décision qu'il n'y a plus de RPA dans l'établissement, le statut RPA demeure parce que il y a toujours eu des ordonnances de maintien de service par le palais de justice. Nous sommes allés au palais de justice plusieurs fois et à chaque fois, les juges ont reporté l'ordonnance de maintien de service. Donc, le statut comme tel est encore là et on était en processus de renouvellement de certification puisque ça se fait aux 4-5 ans, la certification avec le CIUS.
Parlez-moi de la vie au Mont-Carmel depuis l'arrivée de ce propriétaire, les services que vous avez perdus, les salles qui ne sont plus accessibles.
Ah, c'était la catastrophe à partir du moment où ce propriétaire est entré dans la maison. Il a mis des gestionnaires qui étaient là pour uniquement nous décourager, nous enlever tous les services, nous enlever la sécurité. On a tout de suite pris nos lieux communs, déménagé les meubles. On ne sait pas où tous ces bons meubles qu'on avait sont partis. Tout se faisait à peu près de nuit. Notre salle de rencontre, le salon de l'amitié, qu'on a finalement eu en se battant, en argumentant, nous avons eu ce salon de l'amitié là au mois de février 2023 pour nous rencontrer. Sinon, nous n'avions plus aucun lieu commun. Notre lieu, c'était notre appartement point la ligne. Alors que dans la résidence, il y avait une très bonne vie communautaire, d'entraide, de solidarité, de bonheur d'être ensemble, etc. Et là, on nous confinait à nos appartements. Tout à coup, la salle de télévision en bas, c'est fini. La télévision est partie, on ne sait pas où c'est rendu. Notre beau salon de l'amitié avec nos chaises, nos tables, un bon matin, il n'y a plus aucun meuble dans le salon de l'amitié. Où est-ce que c'est parti? Notre bibliothèque, confisquée. La piscine, plus entretenue. Et voilà. Donc, nos lieux... Et le dépanneur, on avait un dépanneur qui louait déjà son logement à 13 000 $ par mois, pardon, 3 000 $ par mois, et là, le nouveau propriétaire lui demandait 5 000 $ par mois. Alors, vous vous imaginez qu'il n'y a personne qui peut vendre du lait puis des canettes de bière pour 5 000 $ par mois.
Je veux insister sur un point, Marie-Paule Lebel. Vous avez mené avec le comité cette bataille. Je regardais dans les notes vous concernant, vous êtes habituée de défendre des droits, vous êtes une religieuse, vous avez plus de 80 ans, puis c'est pas mal l'histoire de votre vie, là, de défendre les droits des gens qui sont malmenés.
Oui. Oui. Ça vous pose question?
Vous prenez cette force où?
vous savez, j'ai l'impression que si on regarde là, dans nos cœurs d'enfants, là, assez souvent, on a des aspirations à vivre quelque chose. Il y en a qui veulent jouer au hockey, il y en a qui veulent faire du cinéma, il y en a qui... Bon, moi, j'ai comme entendu dans mon cœur d'enfant très jeune, prends soin de la veuve et de l'orphelin. Rends justice aux plus démunis. C'est rentré en moi, ça. Et ça m'a habité toute ma vie. Et j'étais au Rwanda, je suis restée là pendant le génocide. Pour moi, rester avec les gens qui sont justement en détresse, on est tous des humains ensemble. Et il faut défendre la dignité, il faut défendre le droit de vivre, etc. Il faut défendre le respect.
Vous êtes, peut-être sans le savoir, puis en vous parlant ce matin, vous allez devenir encore plus une source d'inspiration, un modèle pour des femmes, des hommes, des personnes qui se sentent seules, isolées, que parfois, ça vaut la peine de se battre, puis que parfois, pas tout le temps, mais que à force de conviction et d'efforts, on peut remporter des victoires.
Oui, nous en avons la conviction, j'en ai la conviction. Nous, en 1974, nous avons mené une bataille à Green Bay pour instaurer le début des maisons de transition pour les libérés conditionnels. Notre bataille a duré plus de 5 ans, mais à chaque étape, nous avons aussi gagné parce que nous étions dans nos droits. Quand on a la conviction qu'on est dans nos droits, je crois qu'on trouve aussi les énergies pour se battre et dire non, il faut que les droits soient respectés. Il faut mettre la lumière là-dessus et il faut se battre.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je pense que ce que vous venez de dire, de partager avec nous, risque de faire du bien à pas mal de gens puis d'en inspirer plusieurs. Merci, Marie-Paul Lebel.
Je vous remercie de m'avoir accueilli et à travers moi, tous les résidents qui se battent ensemble.
Merci beaucoup. Marie-Paul Lebel, résidente et membre du comité des résidents de la RPA Mont-Carmel.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
On va en parler justement avec la présidente de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, qui déplore d'ailleurs d'importantes lacunes dans ce qu'on appelle le système de prise en charge des personnes qui sont reconnues non criminellement responsables pour troubles mentaux. Elle est avec nous ce matin, Josée Rioux. Madame Rioux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Vous aussi, vous faites le constat qu'il y a des problèmes avec le système, là, qu'il y a des failles qui font en sorte qu'il y a des gens dangereux qui sont à l'air libre ou presque.
Mais c'est certain qu'il faut penser qu'il y a beaucoup de personnes qui sont itinérantes, qui ne sont pas médicamentées, donc ont mal contrôlé. Il y a des gens qui sont médicamentés, mais qui consomment, donc qui manquent aussi de contrôle ou leur comportement violent peuvent être amplifiés par la consommation. Il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles on se retrouve avec des situations, même comme à Verdun. Mais les ressources, il n'y en a pas. Il y a quelques ressources à Montréal qui sont capables de prendre en charge des gens qui ont des comportements violents. Il y a quelques ressources à Québec. Et à travers le Québec, à part de ça, il n'y en a pas, là. Le parent pauvre de la justice et de la santé, c'est la santé mentale, là. Les services sociaux, c'est pas ce qui est le plus garni au niveau du Québec. On va mettre beaucoup d'argent en médecine, et bien, c'est important, là. Mais la santé mentale, c'est ce qui nous amène à avoir beaucoup plus de problèmes après ça.
Ça, je comprends, mais puis je veux bien là être conciliant puis dire oui, il y a manque de ressources. Mais ces 4 femmes-là n'ont pas envie de se faire sauter dessus, puis n'ont pas envie de recevoir des coups de bâton télescopiques sur la tête. On n'a pas envie de se faire accrocher par des gens. On fait quoi avec ces personnes-là?
C'est la question qui tue, comme dirait un certain animateur. C'est encadrer davantage, mieux évaluer le risque quand une personne est mise dans la collectivité, qu'elle soit à Pinel ou qu'elle soit dans un institut psychiatrique, évaluer le risque de violence, évaluer le risque de récidive. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Je vous dis pas que ça va être la solution qui va régler tout, mais il faut commencer à quelque part. Et si on parle du cas de Maureen Brault, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait. Le jeune homme, il avait 5 fois été non criminellement responsable, reconnu non criminellement responsable pour des gestes de violence, puis il y avait personne qui avait évalué son potentiel de violence. Il y a personne qui avait fait des mesures en collectivité pour qu'il soit pris en charge pour cette problématique-là. Et c'est là où est-ce qu'on est. Il n'y a pas un ensemble de services, il n'y a pas une ligne de services. C'est des silos qui travaillent. On peut pas donner les informations parce que c'est le secret professionnel ou la confidentialité. Il y a un système qui fonctionne pas actuellement.
Est-ce que on peut dire qu'il y a beaucoup de psychiatres qui sont pas équipés pour faire des évaluations légales?
Ben, la psychiatrie légale, ça demeure quand même quelque chose qui est particulier. Est-ce qu'ils sont pas équipés? Je pense que de la formation supplémentaire pourrait pas faire de tort. Combiner des équipes, où est-ce qu'on va avoir une équipe multidisciplinaire, où est-ce qu'on va pouvoir parler de réinsertion, on va pouvoir parler de prise en charge médicamenteuse, est-ce qu'on va pouvoir parler de prise en charge psychologique, prise en charge au niveau des besoins criminogènes? Ben, je pense que quand on arrive à faire une équipe comme ça, on peut maximiser les chances d'aider une personne et minimiser les chances d'avoir des situations comme à Verdun ou comme Maureen Brault ou comme toutes les autres.
OK, mais est-ce que les criminologues, par exemple, font des expertises? Est-ce que vous participez à ce genre de rencontres avec des professionnels de différents horizons pour justement étudier un cas?
Actuellement, je peux pas vous dire que les criminologues sont utilisés à bon escient à ce niveau-là. On est peu demandé pour évaluer le risque de violence, le risque de récidive et la dangerosité. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, nous. Nous, on comprend, on étudie le comportement criminel. On est là pour faire en sorte de minimiser les comportements inadéquats. Donc, oui, on est une piste de solution. Nous, ou des psychologues qui sont formés dans l'évaluation du risque. Je veux pas dire que c'est juste les criminologues qui peuvent faire ça. Mais pourtant, nous, c'est notre formation. On est là pour ça. Mais actuellement, on n'est pas utilisé pour ça. Probablement que l'enquête publique de Mme Kamel, ça va être quelque chose qui va être recommandé ça, à ce niveau-là. En tout cas, moi, hier, quand j'ai témoigné, c'est ce que je disais. Utilisez les bonnes personnes pour évaluer le risque de violence.
Oui, mais si vous êtes la bonne personne, que vous avez fait une bonne évaluation et que moi, comme policier qui intervient, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier pour des raisons de protection du droit de la personne là à sa vie privée, secret médical. Ça me donne pas grand-chose. Si vous le libérez puis que j'ai pas accès à son profil, je vais être dans le trouble.
Bien sûr, et c'est une autre problématique. Il n'y a pas de continuum de service. Tout le monde travaille en vase clos. Si vous prenez l'exemple des services correctionnels, eux, là, de l'incarcération à la fin de la sentence, c'est toujours le même dossier. Si les policiers vont interagir dans un dossier, ils vont savoir exactement chez qui ils vont, puis est-ce que la personne est en libération conditionnelle, qu'est-ce qu'elle a comme condition. Donc, la transmission d'informations se fait à tous les acteurs à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qu'on retrouve au niveau de la santé mentale ou au niveau de la non-responsabilité criminelle et de la commission d'évaluation des troubles mentaux. C'est peut-être une ligne de service qu'il va falloir qu'on pense éventuellement pour que tout le monde ait la bonne information pour bien intervenir et éviter des drames.
En terminant, je vais vous dire une chose. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je vous pose la question quand même. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas vivre en société? Ils ne peuvent pas vivre dans un logement, sont incapables de s'organiser et ils représentent malheureusement un danger permanent.
Je pense que ça, c'est une infime partie de la population. Les autres, bien accompagnés, bien médicamentés, bien suivis, je pense qu'ils peuvent vivre en communauté.
Mais il y en a quand même.
Il y a des gens qui ont des problématiques de santé mentale très sévères qui passent leur vie en institution. Ça existe. Là.
Mais il y en a qui en ont aussi puis qui sont en liberté.
Malheureusement, c'est peut-être l'évaluation ou la prise en charge qui n'est pas bien faite à ce moment-là. Mais il n'y a rien de parfait, M. Arcand, malheureusement. Là.
Je suis d'accord avec vous, mais je trouve que c'est une défaite un peu trop facile de dire que c'est pas parfait, parce qu'à force de se dire ça, on ne fait pas grand-chose.
C'est ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, M. Arcand, en faisant des recommandations comme on a fait hier, c'est justement pour essayer de changer le système et de l'améliorer.
Je suis bien d'accord, mais c'est souvent, là, on part de cette espèce d'idée que rien n'est parfait, ça sera jamais sans une garantie 100%, la psychiatrie, c'est pas une science précise, exacte, je comprends tout ça, mais j'ai l'impression des fois que ça devient des faux fuyants pour ne pas trop brasser le système puis garder le statu quo.
Ben, dans mon monde à moi, c'est plus une raison pour aller plus loin et développer un réseau de services qui va faire en sorte que même si ça sera jamais parfait, on va l'améliorer. Et moi, j'ai bon espoir à ce niveau-là.
Merci, Mme Rioux.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Josée Rioux, la présidente de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Dans le cadre de son 175e anniversaire, le Barreau du Québec propose ce qu'on appelle une espèce de marathon juridique qui va permettre aux Québécois d'avoir accès à des services juridiques gratuits. Et on sait que c'est important. Donc, il y a des avocats qui vont se rendre disponibles dès demain. Ça va se poursuivre toute la fin de semaine. La bâtonnière du Québec est avec nous, Maître Catherine Claveau. Maître Claveau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je vais vous parler de ça dans deux minutes, mais je veux vous entendre de façon plus générale sur l'accès à la justice. De voir, parce que je parle à des juges qui me disent qu'il y a de plus en plus de gens qui se représentent seuls, mm-hmm. ça amène un niveau de complexité, ça alourdit les procédures. Il y a eu plusieurs reportages qui montrent que ça coûte cher un avocat.
Bien sûr.
Comment on rend la justice plus accessible aux gens là qui n'en ont pas les moyens?
Bien, écoutez, ça fait partie de nos priorités stratégiques, là, de trouver des solutions pour accompagner les gens, justement, qui n'ont pas les moyens de se faire représenter par des avocats. Alors, on utilise toutes sortes de moyens. On essaie, justement, de convaincre nos avocats de réfléchir à d'autres manières de facturer leur temps à leurs clients en faisant peut-être plus des forfaits. Ensuite, on encourage les gens quand même à aller chercher une première consultation parce que l'avocat peut les accompagner vers d'autres solutions que d'aller justement se battre devant le tribunal. On parle des moyens de régler les litiges par la médiation, notamment par la négociation. Je pense que l'important, c'est peut-être de frapper à la porte d'un avocat pour aller chercher une première opinion qui va pouvoir l'orienter vers des services qui vont peut-être être plus adaptés que si on s'imagine que tout de suite, là, en se disant, bien, j'irai pas à la cour parce que avec un avocat, ça va me coûter trop cher. C'est important d'aller chercher les bonnes informations. Puis l'occasion de ce marathon-là juridique, si vous me permettez de profiter de cette question-là pour l'introduire, bien, il va y avoir justement des kiosques à travers le Québec où les gens vont peut-être, en petite interrogation, vont pouvoir aller voir nos membres puis demander une opinion là, gratuite là, dans les trois prochains jours.
Ça se passe comment, là, concrètement, ces consultations? J'arrive pas là avec mon dossier, ça dépêche. Puis je dis à un avocat, voulez-vous me regarder ça?
C'est ça. Bien, écoutez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur trois jours, on a demandé vous savez, nous, on a 15 sections, hein, on a des bâtonniers partout dans la province. On a dit, aidez-nous à trouver, à motiver vos membres à aller sur le terrain, aller à la rencontre citoyen pour les rencontrer puis leur offrir une oreille, justement, s'il y a des gens qui ont des problèmes ponctuels, mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi des conférences, des séances d'information, par exemple, sur les gens qui ont besoin pour les testaments, les successions notamment, le droit des aînés. Il va y avoir des conférences ciblées par rapport à ça. Puis vous savez, malheureusement, il y a plusieurs personnes là qui ont besoin d'aide pour accompagner les aidants naturels, des questions comme ça, les jeunes et la justice. Donc, on va aller vers
les questions de logement. Parce que c'est sûr que vous allez être bombardé de questions. Vos avocats, les membres du barreau vont être bombardés là-dessus. Ça risque d'être un des sujets qui va ressortir le plus.
Certainement, vous avez raison. Alors, dans tous les endroits de la province où il y aura des mini-cliniques juridiques, soit dans des centres commerciaux, je pense à Laval, je pense à Québec, notamment, il va y en avoir. Il va y en avoir dans les palais de justice aussi, où les gens vont pouvoir aller voir des avocats s'ils ont des questions, notamment sur le logement, mais ils pourront avoir sûrement là, une première opinion, une première orientation qui va les aider peut-être à garder la tête au-dessus de l'eau avec leur problématique.
C'est donc une consultation gratuite pour éviter, en fait, pour partir sur une bonne base si on veut aller plus loin. Là.
Bien sûr, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je pense que des fois, c'est sûr que le domaine juridique, les lois, c'est compliqué pour monsieur et madame tout le monde, mais en allant à la rencontre, nos membres en allant à la rencontre des citoyens qui ont des petites problématiques comme ça ou des grosses problématiques, bien, ça va peut-être les sécuriser puis leur donner la bonne clé, la bonne porte ou frapper aussi pour la suite des choses.
Il y a des avocats qui m'ont déjà dit un jour, puis là, il faut faire attention avec les mots, là, mais on devrait, entre guillemets, forcer des grands bureaux, peut-être qu'ils le font, là, mais à réserver une banque d'heures gratuite dans une année. Vous parliez tantôt de revoir le mode de facturation. Mm-hmm. Pour permettre à des gens qui sont pas sur l'aide juridique ou enfin qui n'ont pas accès à l'aide juridique puis qui n'ont pas des moyens terribles, de pouvoir obtenir des conseils d'un avocat. Mm-hmm. Pensez-vous que c'est faisable, ça?
Mais oui, je pense que c'est faisable. C'est une question de bonne volonté. Je crois que Moi, j'ai confiance en aux membres du barreau. Ils le savent là, qu'il y a des gens qui ont discuté avec l'accès à la justice. Et je pense que chacun a ça dans sa propre conscience. Et pourquoi pas les gros bureaux. Mais vous savez, il y a aussi beaucoup de cliniques juridiques qui donne aussi. On a beaucoup d'avocats qui travaillent dans des cliniques juridiques. On a
la Jury Pop, par exemple.
Jury Pop, par exemple. Mais vous savez, maintenant, à l'école du barreau elle-même, on a la plus grande clinique étudiante juridique au monde. Alors maintenant, nos étudiants, en plus d'apprendre par l'expérience, rendent service à des vrais clients. Donc, justement, lorsque vous parliez d'un problème de droit, oui, du logement, on appelle à l'école du barreau, on dit, moi, je veux rencontrer un étudiant qui va être supervisé par un professeur. Deux séances gratuites. Donc ça, c'est vraiment...
Mais vous savez, les gens ne savent pas ça. Je connais des gens qui ont fait de la clinique, là,
oui,
on manquait de clients à un moment donné.
Effectivement.
C'est comme un service qui est méconnu du public.
Oui, et vous avez raison, mais on va essayer de trouver encore plus de moyens pour le rendre plus connu, plus public, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est à travers le Québec. Il y a les gens peuvent se déplacer à Sherbrooke, Montréal, Québec, Ottawa, mais même dans les régions éloignées, ça peut être des entrevues par Teams avec les étudiants. Donc, cette plateforme-ci me donne l'occasion de rappeler aux gens que ça existe, donc un accompagnement gratuit, clinique juridique à l'École du barreau. C'est un bon exemple.
Donc, ça te commence demain à travers le Québec, oui, et ça se poursuit jusqu'à samedi.
Jusqu'à samedi. À peu près 175 heures de bénévolat à travers le Québec.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Maître Catherine Claveau, qui est bâtonnière du Québec. Maintenant, on va parler de la fermeture de l'usine de transformation Les Fruits de mer de l'Est à Matane. Ça a donné tout un coup cette semaine. Et on voit que, d'abord, on savait que la pêche pour la crevette était difficile. On parle des difficultés pour le crabe également. J'en parle avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Pascal Bérubé, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Expliquez aux auditeurs de Montréal ce que ça représente, cette fermeture pour la région de Matane.
C'est un coup dur, pas seulement économique, mais identitaire. Combien de fois on associe le terme Matane à crevette? Ça, c'est sans arrêt. Alors, on transforme la crevette du Saint-Laurent à Matane. C'est un produit qui est recherché. Je dirais que c'est un produit qui est gastronomique. On fait travailler du monde depuis près de 60 ans dans une usine. Présentement, elle est détenue par une entreprise danoise. Et essentiellement, c'est les petites crevettes roses que vous retrouvez dans les cocktails et puis dans plusieurs mets cuisinés au Québec. L'enjeu, c'est qu'il y a une concurrence mondiale. Et il y a des gens qui sont capables de produire. Ce que vous voyez chez Costco, par exemple, des crevettes plus grosses, ben ça fait partie de la concurrence. Et là, au Québec, les cotons diminuent de façon considérable. Donc, gros problème pour l'usine de Matane. Pour se diversifier, on transforme du crabe. Et j'ai obtenu l'automne dernier au gouvernement du Québec, après un premier refus, un permis de transformation du homard pour permettre de diversifier l'économie. Ce qu'on a su... lundi matin, moi je l'ai su dimanche par l'entreprise, c'est que une combinaison de raisons, la baisse du quota, les coûts d'exploitation et les visas pour les travailleurs étrangers mexicains, tout ça ensemble font en sorte que c'est plus rentable. Ça l'était pas depuis un moment. Puis il y a pas de possibilité que ça revienne. C'est terminé. Donc on perd 55 emplois à Matane et 150 travailleurs mexicains qui allaient mettre le pied dans l'avion se sont fait dire vous restez au Mexique, c'est terminé. Vous venez pas au Québec.
Quand vous me parlez des quotas, est-ce que la rareté de la ressource est réelle? Autrement dit, on est obligé de baisser les volumes de pêche parce qu'il y a moins de crevettes qu'avant?
C'est clair qu'il y en a moins pour toutes sortes de facteurs. La crevette est moins présente. Et puis, pour compenser, bien là, on s'attendait. Nous, on a la ministre des Pêches qui est la ministre en Gaspésie, donc elle est supposée être au courant. Puis en plus, elle veut se présenter à Matane à la prochaine élection. Je lui demanderais peut-être de reconsidérer ses options avec ce qui se passe là. On demandait des compensations pour faire travailler le monde, pour rentabiliser l'affaire. Et là, on a dit que le sébaste, qui est un poisson rouge, je sais pas si les gens se l'imaginent, là, qui est interdit de pêche, on va pouvoir commencer à le pêcher, mais là, il faut créer des habitudes. Là. Puis la crevette, là, puis le sébaste, c'est pas la même affaire. Donc, très peu de crevettes à transformer. On travaille pas cette semaine, ça valait pas la peine. Mais si on additionne avec le crabe, puis avec le homard, là, ça commence à être quelque chose d'intéressant, mais c'est une telle compétition au plan mondial que là, ça marchait plus. Puis juste indiquer que cette entreprise-là investissait là, juste à l'avant de l'usine, sur le bord du Saint-Laurent à Matane, un genre d'immense motel moderne pour loger à peu près 200 travailleurs. C'est en construction, donc on n'avait que de bonnes nouvelles, puis là, ça a frappé fort, et puis, ben qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Moi, j'ai une belle usine à vendre à Matane. S'il y a des repreneurs, tant mieux. On a un permis de transformation du homard qui va peut-être suivre, mais c'est dur d'avoir un ailleurs pour les travailleurs dans ce domaine-là quand tu as travaillé depuis 30, 40 ans dans la même usine, tes amis sont là, tes habitudes. Ça, on est capable de trouver des emplois pour tout le monde à Matane. Il y a une pénurie comme partout ailleurs. Mais c'est pas si simple quand tu as été si longtemps dans le domaine des pêches.
Bon, on parlait de ces travailleurs mexicains là, qui n'ont pas pu prendre l'avion. C'était quoi le problème? Pourquoi ils n'ont pas pu débarquer comme prévu? Puis on dit que c'est vrai dans d'autres secteurs agricoles aussi.
Ouais, le gouvernement fédéral a appliqué à la lettre sa volonté de diminuer le nombre de travailleurs de travailleurs temporaires, des travailleurs dans certains secteurs. Puis il a commencé par la pêche. Nous, il a dit retardez un peu, laissez passer la saison de la pêche, c'est maintenant. On sauve la saison, puis on va s'organiser pour l'année prochaine. C'est comme un préavis qu'on lui donnait. Mais vous direz qu'ils sont allés dans le pire secteur le plus rapidement possible, et là, ça vient de casser à Matane. Je veux pas être prophète de malheur, mais en Gaspésie, à Rivière-au-Nord, puis aux Îles-de-la-Madeleine, moi, je serais nerveux. Parce que je le sais, le nombre de travailleurs étrangers qui sont employés, s'ils n'arrivent pas à temps, ça n'arrivera pas. Il y a une usine sur la base Côte-Nord hier qui m'écrivent, ils me disent, Monsieur Bérubé, donnez-nous la liste des employés, je n'ai besoin. On va les prendre dans la base Côte-Nord. C'est pas à côté, là. C'est pas simple, mais tout le monde s'arrache des travailleurs spécialisés. Donc, ça, c'est un exemple concret, les pêches, où une application paramétrique, comme on dit, que les fonctionnaires, là, tu fais ça égal, puis il faut pas que ça dépasse. Là, ça a coûté une usine déjà, puis j'espère que ça en coûtera pas d'autres, mais ça regarde mal.
Mais si ces travailleurs étaient débarqués à Matane, l'usine aurait été dans le trouble quand même?
Ben, on aurait pu se débrouiller, c'est-à-dire que là, on additionnait nos quotas, puis on aurait réparti le travail. On a d'ailleurs déjà plusieurs travailleurs mexicains qui sont à Matane, qui sont totalement intégrés, qui sont appréciés de la communauté, sont vaillants, sont bons, puis sont heureux d'être à Matane. C'est fantastique, l'effet. Là, c'était beaucoup plus qu'on allait chercher avec une agence qui est spécialisée. Et là, ben, on s'est fait dire que non, ça prenait un visa valide, puis il y a des délais. Donc, oui, on aurait fini par les avoir plus tard, mais là, la règle fédérale s'applique. Donc, les gens chez nous sont furieux contre une insensibilité du gouvernement fédéral qui, pour faire son fin finot, a dit, bon, on commence ça tout de suite. Puis ce qui est gênant, c'est que tu te dis, bon, on est pas mal au pouvoir dans le coin. Là. On a la ministre à côté, là, un petit peu plus loin vers l'est, puis la ministre des Pêches. Puis si elle peut pas empêcher ça, vous repasserez avec l'argument de voter du bon bord. Hein. Donc, le monde est pas mal craqué chez nous avec raison, mais ça ramène pas les emplois. Donc, moi, je prends les noms un par un, puis j'essaie de les replacer tant bien que mal avec les connaissances que j'ai puis les contacts que j'ai.
Mais les échos que j'ai de d'autres secteurs d'activité, là, ça ressemble pas mal à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire une machine fédérale qui tient pas compte si c'est pour une saison de pêche, une saison de culture maraîchère. C'est de telle date, puis on s'en fout si, par exemple, 40 travailleurs débarquent alors que les récoltes sont commencées.
Exact. Moi, je demandais peut-être 3-4 semaines. Là, on aurait sauvé cette année, puis personne n'aurait chialé là-dessus en disant « Hey, vous donnez une chance à Matane. » Je pense pas qu'on aurait dit ça. Puis là, ça nous donnait le défi de s'organiser pour l'année prochaine. Puis ça allait bien. Le plan était prêt. On avait averti le gouvernement fédéral, notre député, là, Christina Michaud du Bloc québécois, avait fait ça. Puis à Québec, il nous appuyait là-dedans. Là. Moi, j'ai une usine qui m'annonce au maire de Matane puis à moi un dimanche, sans l'annoncer au ministre des Pêches de Québec puis d'Ottawa, que c'est terminé. Puis à chaque fois, on essaie de trouver non, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire. Non, c'est vraiment terminé. Fait que là, tout le monde a reçu sa cessation d'emploi. J'ai une usine qui est vide, puis il y a eu des investissements majeurs. Ça me prend un repreneur, mais en attendant, les gens ont des choses à payer, puis ils ont besoin de travailler. Il y a un couple hier qui m'écrit 4 jeunes enfants, les deux travaillent à l'usine. On peut pas niaiser longtemps, là. Faut leur trouver quelque chose rapidement, puis on est là-dessus, là. On appelle, puis on regarde les compétences de tout le monde, puis ça va au-delà de mon travail de député, mais quand t'es député à Matane, tu peux pas être un député ordinaire. Faut que tu fasses un peu de tout, fait que avec mon bureau, on essaie de trouver une façon de laisser tomber personne.
Mais je regarde ce matin dans la presse, là, le début de la pêche au crabe qui est menacé parce qu'on manque de travailleurs de l'usine de transformation qui pourrait ne pas ouvrir. Vous avez eu vent de ça aussi, j'imagine?
Oui, absolument. Il y a pas mal d'informations qui rentrent. Puis un des enjeux pour le Québec, quand on parle de la souveraineté alimentaire, c'est la question de la provenance des fruits de mer. Déjà, les gens se posent des questions sur la fraîcheur des fruits de mer quand ils sont à Montréal versus la Gaspésie. Mais ils savent que c'est des fruits de mer gaspésiens, québécois. Qu'est-ce qu'on va avoir dans nos assiettes dans les prochaines années, dans les épiceries, dans les restaurants? Est-ce que ça va être des crevettes qui proviennent d'Asie dans des conditions parfois discutables, des crevettes d'élevage, des crevettes qui sont récoltées par des gens qui gagnent presque rien. Il y a un enjeu éthique aussi. C'est toujours attrayant là, d'avoir des crevettes d'ailleurs qui sont moins chères, mais ça fait partie de notre souveraineté alimentaire. Si le secteur des pêches se déglingue, là, pour Matane, c'est terminé. Là. Il y a plus de secteur des pêches. Il reste les pêcheurs de crevettes. Là, ça va être mon prochain enjeu, où ils vont débarquer leur prise. Mais ça s'est réglé en 24 heures.
Mais
des usines bien intéressantes qui, là, sont commencent à être nerveuses, puis j'ai compris.
Mais vous faites bien de souligner le côté éthique. Il y a eu une série de reportages sur les méthodes de pêche de crevettes en Asie. On est dans l'esclavage moderne, là. Puis je me retiens, là, je suis poli.
On a compris.
OK. Quand vous êtes réveillé ce matin, vous avez vu le sondage, qu'est-ce que vous avez dit?
J'ai vu ça.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Ça va bien. Quand ça va bien, ça organise bien. C'est votre collègue Lapierre qui disait ça souvent. C'est encourageant parce que ça donne de l'espoir. Parce que là, il y a aussi la projection des sièges. Philippe Fournier, qui est le spécialiste, peut nous dire dans tel coin, tel comté changerait. Évidemment, tout ça est théorique. Là. On n'est même pas à la mi-mandat, mais il faut voir d'où on part. On était à 9% avant l'élection de 2022. Ça fait pas si longtemps. On était à 34%. Puis en plus, on peut progresser parce que quand on regarde avec plus de précision le sondage, 21% des électeurs de la CAQ trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon serait un meilleur premier ministre. 21. Donc, un électeur sur 5. Donc, on a une progression qui est encore possible. Puis quand on met les deux partis ensemble, indépendantistes, Québec solidaire et le Parti québécois, on est à plus de 50%. Alors, là, vous pourriez me dire avec raison, puis je vous écoute, alors j'entends souvent cette remarque-là, oui, mais il y en a qui sont pas souverainistes. Alors, ils passent de non à peut-être je suis rendu chez vous. Parlez-moi, ça se peut que j'embarque. Au moins, ils sont rendus chez nous. Fait que si le Québec solidaire et le Parti québécois peuvent convaincre ceux qui veulent voter pour eux, parce que là, le dialogue est fait, ils sont prêts à voter pour nous, de voter oui, d'être indépendantistes, ben tout est possible, il y a une belle progression. Alors, oui, ça nous encourage. J'aime mieux vivre ça ce matin qu'une gueule de bois avec un sondage qui serait négatif.
Mais on est certain que 100% des membres du Parti québécois sont souverainistes. Je peux pas dire la même chose de Québec solidaire, par exemple.
Ben là, ils travaillent bien, là, parce que là, ils font une tournée, puis ils s'affirment, puis ça serait peut-être plus facile de pas en parler, puis moi, j'ai été très critique là-dessus, alors je les regarde faire, puis ils font ce qu'ils ont à faire, mais en même temps, la seule critique, par contre, que je veux noter, souvent, ils disent, nous, on est plus rassembleurs que le Parti québécois. Ben, je sais pas s'ils sont plus rassembleurs, mais nous, on rassemble deux fois plus d'électeurs qu'eux présentement qui sont prêts à voter pour nous. Fait que je trouve pas mal rassembleurs, à moins qu'on ait des critères en disant un électeur a plus de valeur que d'autres. Moi, je trouve que quand on est à 34%, commence à être pas mal rassembleur. Et aujourd'hui, ce qui va être fascinant à l'Assemblée nationale, c'est que le parti que les gens veulent le plus entendre, qui pourrait même prendre le pouvoir s'il y avait une élection aujourd'hui, va avoir droit à une seule question. Les libéraux, probablement à 5 ou 6, puis Québec solidaire à 3 ou 4. Fait que c'est assez particulier de se retrouver avec presque pas de moyens. Là, je vous parle de l'étage, du troisième étage, le dernier bureau à l'Assemblée nationale. On a presque pas de moyens, quelques employés seulement, pour réussir à faire tant bien que mal ce qu'on fait. On le fait avec beaucoup de cœur. Ça garantit rien pour 2026. Mais il y a une progression, puis il y a une solidité de Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous inspire. Puis nous, ben, on essaie de faire pour le mieux avec les moyens qu'on a, mais surtout avec le cœur qu'on a. Puis je pense que les gens le remarquent.
Monsieur Bérubé, merci. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Pascal Bérubé est le député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois. On a appris dans les dernières heures le décès de Raymond Boulanger, tout un personnage. C'était celui qu'on a surnommé le pilote de Casey en Haute-Mauricie, le pilote des cartels de la drogue. Il souffrait d'un cancer depuis quelques années. Daniel Renault est avec nous. Daniel avait publié un livre d'ailleurs qui raconte sa vie. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Paul.
Si tu avais à résumer en quelques mots là pour les gens qui ne savent pas qui est Raymond Boulanger, on a affaire à quelle sorte d'individu?
Ben, tu l'as dit, hein, tout un personnage. Hier, je parlais à un policier de la GRC retraité qui, lui, m'a dit la même expression. Pour nous, c'était tout un personnage. Raymond Boulanger, rappelle-toi, Paul, en 92, on était tous les deux à CJMS. Ça avait eu l'effet d'une bombe, l'interception d'un avion au bout de la piste de Casey, au nord de la TUC, qui contenait 4000 kilogrammes de cocaïne. Et le pilote, qui était un peu particulier, qui s'appelait Raymond Boulanger, qui était surnommé Cowboy à l'époque et qui avait fait un clin d'œil aux caméras et aux appareils photo lorsqu'il avait comparu au palais de justice de La Tuque. Ben, c'est là que Raymond Boulanger est devenu un personnage, mais c'est un homme, en quelques mots, qui a eu toute une vie parce que il a travaillé pour les cartels colombiens, il a fréquenté Pablo Escobar, il a travaillé pour la CIA, un peu comme ce pilote d'avion là, dont Tom Cruise personnifie le personnage là, dans un film qui est sorti il y a quelques années. Travaillé pour la CIA, il a livré des armes aux Contras, qui étaient en conflit contre les sandinistes au Nicaragua. Et il avait même démarré des entreprises où il vendait des pièces d'avion à l'Iran de façon détournée par une entreprise enregistrée en Belgique. Tout ça, finalement, pour contourner l'embargo contre l'Iran. Mais aussi, il s'était évadé deux fois parce qu'il avait été condamné après Casey à une peine de 18 ans ou 20 ans de prison. Là. Mais il s'était évadé deux fois. Puis lui, lorsque je l'avais rencontré pour écrire le livre, il n'aimait pas ça dire qu'il s'était évadé. Il disait « Non, je suis parti. » Mais deux fois, il s'était évadé. Et une de ces deux fois, il était retourné en Colombie. Il s'était fait enlever par des membres d'un groupuscule de la FARC, qui étaient des rebelles là-bas. Une rançon avait été versée pour qu'il puisse être libéré. Et finalement, il avait été réarrêté ici à Montréal à la suite d'une erreur là, à cause d'une carte de crédit qui l'avait compromis. Et il avait purgé toute sa peine. Il avait été libéré sous condition en 2013. Et moi, je l'avais rencontré pour le Journal de Montréal à l'époque, autour de 2010-2011. Et je lui avais dit, Monsieur Boulanger, votre vie, c'est un vrai livre. Là. Et lorsqu'il est sorti de prison en 2013, moi, j'étais rendu à la presse, et il m'avait appelé. Puis il m'avait dit, salut, c'est moi, comment ça va? Je lui ai dit, qui parle? Il dit, c'est Raymond Boulanger. Puis il m'avait vraiment contacté, lui, directement, après sa libération. Et c'est là que, durant tout un été, on s'est assis ensemble, puis je l'ai écouté pendant des heures, parce que Raymond était quelqu'un qui parlait énormément. Je l'ai écouté pendant des heures raconter sa vie. Et là, j'ai écrit le livre qui a été publié en 2013.
Avec ces gars-là, tu te demandes si tout ça est vrai. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait en prison là, quand il a été détenu, puis il s'est évadé après. Là. Puis là, il me racontait ses rencontres avec Pablo Escobar, puis le trafic d'armes. Là, tu te dis, comment on peut vérifier ça? Est-ce que, tu sais, oui, il a travaillé pour les cartels de la drogue, mais est-ce qu'il se donne pas un rôle plus important que celui qu'il avait?
Moi, je pense qu'il a eu un rôle important au sein des cartels, mais je lui donnerais pas le bon Dieu sans confession. Sauf que lorsque je m'assoyais avec lui et je passais des 3-4 heures consécutives avec lui, quelques fois par semaine ou au moins une fois par semaine, et à chaque fois que je le rencontrais, je revenais sur ce qu'il m'avait dit précédemment et je lui posais des questions, et à chaque fois, il me répétait toujours la même histoire, c'était toujours la même chose. Et Paul, vraiment, quand j'ai écrit le livre, parce qu'il n'y a rien de pire pour un journaliste, évidemment, un journaliste, on ne veut pas écrire des choses erronées. On est là pour informer, pas pour désinformer. Et j'avais passé beaucoup de temps à contre-vérifier ce qu'il me disait dans la mesure du possible. Tous les personnes dont il me parlait en Colombie, je vérifiais c'était qui, puis effectivement, il avait raison, oui, c'était vrai. Mais là où j'ai un doute, c'est qu'à un moment donné, il m'avait dit, lorsque les F-18 le suivaient, la fameuse nuit ou le fameux matin du vol de Casey, lorsqu'il s'est fait prendre, et qu'un des F-18 s'est approché de son avion, et qui a fait signe de descendre et que lui a répondu par des babayes là, ou un doigt d'honneur. Là. Ça, j'ai des doutes parce que je pense que les F-18, oui, l'ont suivi, mais à une certaine distance. Et Raymond, il fallait toujours le cadrer, hein, tout le temps, parce que à un moment donné, ça partait, ces histoires. Mais dans le livre, j'ai vraiment pris tout ce qui se recoupait et tout ce que j'ai pu vérifier, mais c'est vraiment un individu qui a eu une vie peu banale, hors de l'ordinaire dans l'histoire criminelle du Québec et du Canada.
Moi, je me souviens quand tu décrivais la façon dont l'avion se ravitaillait en plein vol avec ses bidons d'essence et ses espèces de conteneurs avec des tuyaux pour éviter de faire une escale puis te rendre à destination, là.
Oui, puis aussi, il en voulait beaucoup. Je ne sais pas si tu avais dit ça à toi aussi, mais aux gens de la mafia qui étaient censés l'attendre au bout de la piste de Casey.
Oui, oui.
Et qui serait parti à peu près 2 heures avant qu'il arrive. Hein, parce que lorsqu'il a quitté la Colombie directement avec son Convert, déjà, il a été repéré par les autorités américaines qui avaient avisé à ce moment-là, les autorités canadiennes. Donc, il a dû prendre une route un peu plus à l'est. Et ça a prolongé le vol. Et ça faisait déjà 2 jours, je pense, que les gens de la mafia attendaient dans un petit campement improvisé au bout de la piste de Casey. Et là, ils sont tannés, ils sont partis. Raymond Boulanger est arrivé 2 heures après le départ de ces gens-là. Il était tout seul. L'avion n'avait plus d'essence, n'avait pas assez pour repartir. Il était tout seul, en fait, avec 3 Colombiens qui l'accompagnaient. Et là, à un moment donné, les F-18 sont passés au-dessus de la piste. Les Colombiens ont pris panique. Ils ont pris la fuite avec un véhicule du propriétaire du dépanneur de Casey, je pense, qui s'était rendu sur les lieux. Et puis Raymond Boulanger s'est rendu au bureau de la Stone Consolidated. Il était au téléphone quand un policier de la GRC est rentré dans le bureau pour dire « Êtes-vous le pilote de l'avion? Ben, je vous arrête. » Puis c'est comme ça là qu'après... il a été arrêté et puis il a été jugé et condamné.
Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée. Daniel Renaud, qui est journaliste donc pour l'équipe d'enquête de la presse, qui a écrit un livre sur Raymond Boulanger. D'ailleurs, Patrick Huard préparait, je parle au conditionnel parce que je ne sais pas où en est le projet, une série sur la vie de Raymond Boulanger. Dans les derniers moments de sa vie, donc, il s'est manifesté beaucoup contre les vaccins, théorie du complot et tout ça. Alors, je ne sais pas si on a poursuivi le projet, mais je sais que Patrick Huard travaillait là-dessus, là, parce que c'est vraiment une histoire hors du commun.
C'est 23.